Voilà. Bonjour chers amis, nous sommes le vendredi 15 mai 2020 et nous allons poursuivre la réflexion. Je vous ai parlé de la liberté de l'incroyant, la liberté du chrétien. Ensuite, quelle était la richesse de l'obéissance, le signe de la vraie liberté chez le chrétien, l'obéissance à Dieu. Et puis ensuite, je vous ai parlé, la fois suivante, la dernière fois, de la sainteté de Dieu. Parce que la sainteté de Dieu est le cœur de l'obéissance. On n'obéit pas à quelqu'un qui est imparfait, quelqu'un qui est mauvais, dans lequel il y a des péchés. On obéit à quelqu'un qui est infiniment saint et qui est la vérité même. Voilà. Maintenant, je me suis posé la question, mais comment nous, qui sommes au départ, en tout cas au point de départ, pour un chrétien, au point de départ, ou pour un incroyant, nous sommes incapables de comprendre le vrai du faux. Nous sommes incapables parfois de distinguer notre main gauche de notre main droite, comme dit Dieu à Jonas à propos des gens de Ninive, une très grosse ville, de plusieurs millions d'habitants. Donc, on voit bien dans notre société d'aujourd'hui que c'est la confusion à beaucoup de niveaux. Donc, il n'y a pas réellement une vérité. Il y a des vérités, chacun a sa vérité. Donc, il y a quand même quelque chose de problématique pour savoir qui est Dieu et comment il est saint. Comment pouvons-nous avoir le moyen de comprendre sa sainteté? Parce que si nous comprenons sa sainteté, nous pouvons ensuite lui obéir et avoir cette liberté dont je vous ai parlé. Alors, ma réflexion s'est tournée vers certains versets. Dans Jean chapitre 3, versets 19 à 21. Ce jugement, c'est que la lumière, donc Jésus est bien sûr venu pour un jugement, mais sans condamner les hommes et les femmes. Un jugement sur l'erreur, l'égarement, sur le péché. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, donc Jésus, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc voilà, il y a des gens qui, en face de la personne de Jésus, ont fait un choix. Ils ont refusé. Parce que leurs actions, leurs engagements, leurs choix, leurs pensées étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal et la lumière ne vient point à la lumière. Donc il y a une espèce d'opposition brutale qui se développe contre la personne de Jésus et contre ses enseignements. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui ne désire pas être mis en question et obéir à la parole de Jésus. Mais il y a aussi une autre capacité, une autre voie qui semble minoritaire, bien sûr. Et lisons, continuons à lire au verset 20, « Quiconque fait le mal et la lumière ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » On va revenir à l'histoire de dévoiler, c'est qu'il y a un voile. Dévoiler, ça veut dire tirer le voile. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité, donc en grec poein, celui qui met en pratique un comportement et des décisions de cœur et d'esprit vrai, même s'il n'est pas parfait, il met en comportement un choix vers la vérité, parce qu'il aime la vérité, même s'il n'est pas encore sauvé, même s'il n'a pas encore cru vraiment Jésus. Il a des chances en lui. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Donc il viendra, il est assurément sur le chemin pour rencontrer Jésus. Afin que ses œuvres soient manifestées, donc dévoilées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc les œuvres de vérité, les choix de vérité qui sont faits dans le cœur d'un homme, d'une femme qui aime, qui recherche le vrai, même s'il est encore dans la confusion, mais il recherche. De manière déclarée, de manière confuse, très difficilement prononçable parfois, mais ils cherchent la vérité. Eh bien, à ce moment-là, elles sont déjà faites en Dieu. Il y a déjà une marche qui se fait sous l'action de Dieu, sous la présence de Dieu, même s'il ne s'en rend pas compte. Et deuxième chose, ses œuvres, ses actions, ses choix vont être dévoilés un jour. Il y a manifesté. Et le voile va être ôté. Donc, toujours, il y a quelque chose qui nous semble important. Comment peut-on venir à la conscience de la vérité pour pouvoir agir librement avec Jésus et lui obéir, et obéir à sa parole. Comment pouvons-nous, nous qui sommes nés dans les ténèbres? Eh bien, c'est clair. Dans le cantique de Zacharie, le soleil levant est venu au-dessus de la vallée de l'ombre et de la lumière pour éclairer la vallée de la mort, pour éclairer la vallée. Quand on est en montagne, je me rappelle avoir campé avec la famille en montagne en Norvège. Les montagnes sont tellement élevées que le soleil, à 11h du matin, il éclairait nos tentes. Il éclairait le fond de la vallée. Et qu'au soir, à cause des parois des montagnes, au soir, à 5h, parfois 4h, déjà, il y avait l'ombre qui venait. Et les moustiques avec, évidemment. Mais donc la période d'exposition au soleil était très minime, 5 heures. Il fallait aller plus loin, aller dans des plaines très ouvertes, des vallées très ouvertes, pour avoir plus de lumière, de manière de nombreuses heures d'exposition au soleil. Mais là, dans la montagne, l'exposition au soleil est diminuée à cause des obstacles à la lumière, les montagnes. Eh bien, même dans ce cantique de Zacharie, dans Luc, et au début de l'évangile de Luc, le soleil levant s'est levé au-dessus de la vallée de l'ombre et de la mort. Donc, il y a quelque chose qui vient éclairer, même les gens qui ont peu de lumière. Il y a quelque chose qui vient, c'est le Christ. C'est extrêmement important, les amis, que nous nous rendions compte, quelqu'un qui a peu de lumière peut quand même être éclairé. Parce que Dieu envoie son Fils pour tout le monde. Que quelqu'un ait reçu beaucoup d'enseignements et beaucoup de lumière, ou que quelqu'un n'en ait pas beaucoup reçu ou pas du tout, il est clair qu'il en reçoit. Alors, c'est dans Luc au chapitre 1, au verset 76, et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, il s'agit de Jean-Baptiste, c'est un cantique de Zacharie avant que Jean-Baptiste sonne. Alors, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc, il y a clairement quelque chose là de dit, c'est que le prophète parle pour que les personnes aient conscience de leurs péchés et conscience qu'un pardon est possible. Donc, la parole prophétique est à une, déjà, un des aspects de la lumière, un élément du salut. L'élément important qui travaille les consciences. Donc Jean-Baptiste a été un prophète comme il y en a eu plein. Et les 12 apôtres ont été des prophètes. Et tout quiconque parle avec exactitude, avec sérieux de la parole de Dieu, est un prophète. Il apporte la parole de Dieu telle qu'elle est. Il apporte la parole qui n'est pas de lui. À des personnes pour qu'elles connaissent leur péché, qu'elles connaissent la possibilité du salut, la connaissance de l'œuvre de Jésus-Christ qui les a sauvés à la croix, s'ils acceptent. Verset 78, grâce aux entrailles d'un miséricorde de notre Dieu, tout cela, c'est grâce si le prophète Jean-Baptiste est venu et tous les autres prophètes, et Jésus dans sa parole est venu, c'est à cause des entrailles de miséricorde de notre Dieu. Donc la paternité de Dieu, la paternité, son amour pour nous, pour les pécheurs, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Je repensais toujours à cette situation où nous étions en train de camper dans une vallée fort encaissée en Norvège. L'exposition est très minime par rapport à une immense vallée à 10-15 km de là. Et j'ai réfléchi à ce verset, partout la lumière vient, même si l'exposition est plus courte. C'est ça que ça veut dire, et partout Dieu s'adresse aux hommes. Partout la parole prophétique peut être annoncée et donnée. Alors, je reviens à Jean, chapitre 3, verset 20. Quiconque fait le mal et la lumière ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Donc, au contact de cette lumière, de cette parole des prophètes et de Jésus, et de la parole prophétique de l'Évangile, nous avons soit de l'amour, soit du refus, de l'agressivité. ce n'est pas dit que c'est définitif. Parfois, c'est bon signe quand quelqu'un se cabre, se fâche, est en colère, refuse. Parfois, c'est parce que l'épée de la parole a touché quelque chose que nous ne voyons pas et qui va l'amener à se remettre en question et à vivre vraiment de manière, ensuite, de manière juste auprès de Dieu, avec une pleine attention à la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça vibre. Oui, mais à cause de ça, ça vibre. C'est un peu casse-pied, quoi. Pardon, excusez-moi. Il faudrait le dire à Bénédicte que ça appelle tout le temps. Il faudrait lui dire, c'est parce que le téléphone bouge à cause de ça. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Donc celui qui fait la vérité, qui l'aime, qui s'en approche, qui veut la vivre, bien qu'il ne soit pas encore sauvé, vient à cette lumière de Christ, vient à Dieu. Et ses œuvres seront dévoilées. Alors, je vais reprendre la deuxième épître aux Corinthiens. C'est une épître que j'aime bien. Quelqu'un a appelé, ça a vibré, ça bougeait tout le temps, et je ne sais pas. Je ne se peux pas, je ne suis pas technicien. Deuxième aux Corinthiens. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 3. Au verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. L'espérance du salut. Nous usons d'une grande liberté. C'est un chrétien, Paul, qui parle. Il est libre. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Moïse, à certains moments, se voilait. Et il était, soit quand il descendait de la montagne du Sinaï, qu'il a eu des contacts avec Dieu, soit en vieillissant, probablement. Mais ce voile sur Moïse est quelque chose d'important. Quand il y a un voile, il n'y a pas de communication. Verset 14, ils sont devenus durs d'entendement. Donc, il y avait un problème dans les fils d'Israël. Ils étaient durs d'entendement, il y avait donc un voile. Voilà l'explication du voile. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas. Donc, on peut lire l'Ancien Testament. Et on peut aller au mur des lamentations prier, etc. On peut faire des jeûnes, on peut faire des tas de prières. Et ça, c'est pour les Juifs, mais aussi, par exemple, dans le monde de l'islam, c'est la même chose. On peut s'attacher à une notion très haute de Dieu et appliquer des règles et il y a un voile pour ne pas connaître le vrai Dieu, avoir une relation avec. Et alors, on est dans l'angoisse, on est dans l'incertitude. On applique alors fidèlement, pieusement la parole qu'on a apprise et on n'est pas en communication. Alors, qu'est-ce que dit la parole ? 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14. C'est en Christ qu'il disparaît ce voile. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc c'est la loi, les règles. Un voile nous sépare de Dieu. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Jésus, le voile est ôté. Donc lorsque nous découvrons la personne de Jésus, nous comprenons la personne de Dieu. Nous comprenons son amour pour nous, sa sainteté, et nous comprenons où nous en sommes envers Dieu, en face de Dieu. Et nous comprenons que nous avons besoin d'être sauvés gracieusement, pas par l'application de la loi, pas par une justice qu'on se ferait en essayant de respecter la loi. Parce que c'est impossible. Toute la loi nous est impossible à appliquer. Donc il faut un pardon gratuit. Et ce pardon gratuit, c'est grâce à une offrande de grand prix et unique. Unique. En une fois, la dette est payée et le voile est ôté. Alors, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, donc change de vie et se donne à Jésus, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je rejoins le thème de la liberté. Lorsque nous découvrons la vraie personne de Dieu, grâce à la découverte de la personne de Jésus et de sa parole, lorsque nous sommes travaillés dans notre cœur, un voile de séparation disparaît. Et, dans Éphésiens, Paul dit un mur de séparation. C'est plus épais encore qu'un voile. Or, le Seigneur, verset 17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, en face de Dieu, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, le chrétien, en vivant, en ayant accepté Jésus, se place devant un miroir, à cette époque-là, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa personne. S'il voit l'ancienne personne qu'il était, et la nouvelle personne qu'il est, il se rend compte que Christ est dans sa personne, sa nouvelle personne, et qu'il est, que Christ est à l'œuvre, et que sa vie est conduite par le Christ, Jésus, et qu'il est en relation avec Dieu. Il fait la découverte de ce que sa nature a complètement été bouleversée, son cœur, ses pensées, par la personne de Jésus. Ça, c'est la vraie foi chrétienne. Et cette vraie foi chrétienne, c'est par la puissance de l'Esprit Saint. Reprenons le verset 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, on le voit à travers ce qu'on devient, on prend conscience de ce que Jésus est en nous et agit en nous et nous transforme et nous prépare au grand banquet final, aux noces célestes pour être comme Jésus, semblable à Jésus, pour être agréable à Dieu et sans péché, et rempli d'œuvres saintes, eh bien, vous voyez, nous contemplons cette vie en devenir. Nous contemplons cette dynamique qui a été entreprise par Jésus en nous, et qui ne vient pas de nous, qui ne vient pas de l'application de la loi, ni de nos efforts. Et regardez bien, nous contemplons la gloire du Seigneur. Ce n'est pas nous qu'on regarde. Nous regardons ce que Jésus fait glorieusement en nous. Ce n'est pas une œuvre de narcissisme et d'égocentrisme renouvelé de manière religieuse, sublimé. Ce n'est pas ça du tout. Nous apprenons à faire la différence entre Jésus qui agit glorieusement en nous et nous, le pécheur. Le pécheur qui est sauvé et travaillé par grâce, sanctifié par grâce. Alors dans ce verset, nous sommes transformés en la même image, donc en Christ, pour lui devenir semblable, de gloire en gloire, de pas en pas, comme par le Seigneur l'Esprit. Dieu est esprit, Dieu est spirituel, il est invisible et il agit en nous. Donc si vous voulez bien faire attention, chers amis, nous voyons que Dieu agit pour que le voile tombe. Et nous pouvons apprendre la liberté et l'obéissance. Non pas parce que nous avons toutes les capacités d'obéir et toutes les capacités de comprendre, non, parce que Jésus vient en nous faire son œuvre. C'est ça la différence. C'est tout est grâce. Tout est grâce. Voilà. C'est extrêmement important. Donc, quand je vois ce verset-là, le voile est jeté sur leur cœur, au verset 15, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est un verset sur lequel j'ai réfléchi en travaillant au champ, au jardin, en étant en prière, ou seul, même ici à table. Il y a des hommes qui nient leur péché et qui préfèrent avoir un voile et ne jamais voir l'œuvre de Jésus, de Dieu en eux. Ils sont tellement épris d'eux-mêmes. Il nie la possibilité d'être transformé par Jésus, par Dieu. Ils ne veulent pas. Ils se bloquent. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est le péché contre le Saint-Esprit, ça. Ça, c'est le blasphème sublime, hein, que Dieu ne peut pas pardonner. Et ça nous sépare. Même que Dieu nous aime, mais nous choisissons la séparation. Donc c'est un péché qui mène à la mort. Alors, Dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 4, je lis au verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » C'est ce que je viens de dire. Il reste un voile pour ceux qui préfèrent la mort, qui préfèrent la séparation avec Dieu. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, il y a des gens qui ont une adhésion à l'esprit d'égarement, une adhésion à l'esprit de mensonge. Ils adhèrent, ils aiment les choses fausses. Et ils aiment celui qui crée les choses fausses, c'est-à-dire Satan, même s'ils ne le connaissent pas, le Dieu de ce siècle. Afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ces incrédules-là, ces âmes voilées, n'ont pas et ne verront jamais la vraie personne de Jésus. Ils ne verront jamais la gloire de Christ Jésus, ils ne verront jamais à travers l'image de Jésus, l'image de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons des gens qui se disent chrétiens, croyants, qui sont dans ce cas-là, et nous avons des gens qui se disent chrétiens, qui sont dans le cadre d'une vraie relation à Dieu, et qui aiment et qui connaissent vraiment le Seigneur Jésus, et qui s'approchent de pas à pas, de gloire en gloire, par la puissance du Saint-Esprit, ils s'approchent pour la rencontre avec Dieu. L'étiquette ne fait pas le fromage. J'étais un jour à Margu et il sortait un camion de la fromagerie de Margu, qui est maintenant détruite, en Meuse. Et c'était des camemberts de Normandie. Pas loin de chez nous, il y a une source d'eau, Nestlé Waters. Il sortait des camions contre Aix-et-Ville et Vichy, Perrier. Comment se fait-il qu'ils sortent de chez nous, de notre forêt ? Et sur les bouteilles, il y aura des prix différents, suivant l'étiquette qui est mise, et suivant les messages qu'on a induits chez les gens. Et chacun choisit le message qu'il veut, chacun choisit le mensonge qu'il veut, qui va le tromper, et dépensera de l'argent ensuite à son mensonge. Donc, je vais dire que devant toutes les fausses vérités qu'il y a dans le monde, nous avons la capacité nous-mêmes de nous tromper et de rester dedans. Nous avons la capacité de choisir d'être séduits. Nous avons le choix de décider d'aimer la vérité et d'être attiré par la vérité. Ok ? Avec les deux exemples que je viens de donner, j'aime le camembert de Normandie, je l'adore et je ne sais pas s'il vient de Normandie. Selon les prix, selon aussi la qualité de ces fromages, je vois bien qu'ils ne sont pas faits tous au même endroit, avec le même lait, au même... Donc, il y a toutes sortes de camemberts, comme il y a toutes sortes de chrétiens, toutes sortes de croyants sur la terre, il y a toutes sortes de bouteilles d'eau, des prix et d'étiquettes différentes, il y a toutes sortes de croyants sur terre, comme il y a toutes sortes d'athées aussi sur terre. Tout ce qui compte, c'est que la personne qui a découvert la richesse de Christ, qui a vu en Jésus l'image d'un Dieu compatissant, aimant, qui aime sa créature et qui est prêt à l'accueillir et qui lui a pardonné à la croix de Jésus, c'est à ce moment-là qu'on choisit. Alors, regardons verset 5, 2 Corinthiens 4, 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est clair, il ne fait pas du commerce. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Il ne fait pas de religion. Il prêche pour une personne ressuscitée et morte pour nos péchés. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, Kérusso, que nous proclamons, et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Doulos, esclave. Car Dieu qui a dit, et ça il reprend, Paul reprend un verset de Genèse, chapitre 1, verset 3. La lumière brillera du sein des ténèbres. Et ensuite, il donne l'interprétation, ce qu'on appelle l'herméneutique en théologie, de ce verset Genèse 1:3. Hein, cette lumière, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Une lumière vient dans mon cœur, est venue dans mon cœur pour faire connaître la connaissance de la gloire de Dieu. Et où est-ce que je peux la trouver? Regardez dans ce verset, sur la face de Christ. C'est sur la face de Christ que je vois ce que j'ai cherché parce que Dieu m'a poussé à chercher et que j'ai accepté d'être poussé par Dieu à le chercher. Et donc, je sors des ténèbres lorsque je m'avance vers Jésus, je sors de mon égarement et je rentre dans la communication et la relation avec Dieu. Et je sors de la mort spirituelle éternelle. Nous reviendrons à d'autres textes. Continuons celui-ci. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, le chrétien n'est pas un vase en cristal. Il n'a pas besoin de s'habiller en blanc ou en noir, ou noir et blanc. Il n'a pas besoin de se déguiser. Ce n'est pas l'apparence qui va faire transparaître Christ de son être profond vers les autres. Ce qui compte, c'est que le Christ soit dans le vase. Parce que Christ est lumière du monde, Christ est l'éternelle lumière, et je n'ai pas besoin d'avoir un habit spécial, d'avoir une croix sur moi, pour que le Christ se manifeste à travers moi vers les autres. Je suis cette cruche, cette vase en terre épaisse. Et croyez bien que malgré l'opacité de cette paroi en terre cuite, la lumière passe à travers. C'est un défi. Parce que nous, lorsqu'on crée une ampoule ou on veut faire quelque chose de beau, on prend du cristal ou du verre pour qu'on le voie. Et Dieu lui a pris tout le contraire. Il n'a pas pris du sable qu'il a cuit sous haute température pour faire du verre. Il a pris de la terre qu'il a cuite dans un four de potier. Et c'est là-dedans que nous nous inscrivons. Nous inscrivons dans une vie imparfaite, dans une vie humaine, au sein de laquelle la présence de Christ passe malgré nos faiblesses et nos défauts. Donc le défi de Dieu, c'est l'absolu, Christ, l'absolu, dans le relatif. Donc nos faiblesses sont bien sûr dans le programme de Dieu pour témoigner. Et il faut faire attention d'être perfectionniste et d'être soucieux de tellement de l'étiquette et du paraître pour être le chrétien sensationnel qui témoigne de Jésus. Nous ne pouvons pas à l'inverse être laxiste et nous laisser aller en disant tout est bon, non. Mais il faut reconnaître que nous, bien noblement, comme dit Pierre dans son épître, n'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Voilà ce que Dieu a voulu faire comprendre par cette image à tous les chrétiens de l'église de Corinthe. J'espère avoir abordé un peu le sujet, parce que découvrir sa liberté, c'est dans l'obéissance à Dieu, à Jésus. Puis comment vivre l'obéissance, comment la découvrir malgré nos incapacités. Je viens d'expliquer un peu comment Dieu s'y prend avec nous. J'espère que cela vous a fait du bien. Prenons Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 et au verset 23. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Donc ça veut dire pour Jésus qu'il y a des faux. Ne nous berçons pas d'illusions, il y aura toujours du vrai et du faux dans le monde religieux, comme dans le monde de la finance, comme dans le monde de tout. Et nous sommes dans un monde d'imperfection, un monde où les vérités contradictoires sont là, et il faut savoir supporter cela jusqu'au retour de Jésus, avec patience, avec foi et avec joie. Et d'ailleurs, on est concerné le premier quand on se regarde dans la glace. Donc, verset Jean 4, 23, l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs, suis-je un vrai adorateur? Suis-je un faux adorateur? Là, il faut se poser la question. Combien de temps j'ai passé dans la parole de Dieu aujourd'hui, hier? Combien de temps j'ai passé en présence de mon Seigneur dans ma chambre, seul à seul, ou dans la nature? On ne peut pas se payer de mots avec Dieu. Et là, c'est clair. L'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Donc il n'y a pas besoin d'un grand temple, une basilique, une cathédrale, etc. Des bougies, des lumières, des orgues, des belles musiques. Hein? Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc voilà ce que Dieu demande. adorateur en esprit en vérité. En esprit, c'est-à-dire dans les pensées, dans le fonctionnement interne de mon esprit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est honorable à Dieu? C'est tourné vraiment, vraiment, tout se tourne vers Dieu, avec respect, et que tout ce que nous choisissons est dans le respect de sa volonté. Et en vérité, il ne faut pas faire de compromis. C'est la vérité. Ou c'est faux. Entre les deux, ce n'est pas ça que Dieu veut. Alors, donc il faut une résolution, une décision, un choix, une conversion. Verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc je n'adore pas comme au christianisme du 4e siècle à Constantin, dans les années qui ont suivi, les 30 années qui ont suivi, catastrophe, où tous les anciens prêtres romains, des temples de Mercure, Minerve et tout ça, qui s'ennuyaient, qui n'étaient plus la religion officielle, ont retrouvé place dans l'église chrétienne. Et on a repris des rites païens qu'on a introduits dans cette église qu'on disait chrétienne, l'église de Constantin. Il y a bien sûr beaucoup de chrétiens qui ont refusé, qui ne voulaient pas, mais ils ont été châtiés par l'autorité. Il y avait des gens qui ont introduit des choses fausses. Et la plupart des gens qui avaient été chrétiens par un baptême sans la foi ont accepté, bien sûr, des rites qui ressemblaient à ceux qu'ils avaient avant d'être baptisés chrétiens. Et donc, il faut que ce soit en esprit, en vérité. C'est pas par le baptême, c'est pas par des étiquettes, c'est pas par des affirmations solennelles, c'est en esprit en vérité. C'est la vie que nous menons qui montre ce que nous sommes, si nous sommes vraiment en connexion avec Jésus, en obéissance avec lui, en amour complet pour Dieu. Ça, c'est ça que Jésus est venu dire. Naturellement, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Philippiens chapitre 4. Ça ne plaira jamais d'ailleurs. C'est des exceptions à qui ça plaira. Philippiens chapitre 4. Versets 7 à 8. Je vais prendre au verset 4. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, notre vie en amour et en pensée et en vérité avec Jésus doit normalement procurer de la joie. Et il faut faire le test. Est-ce que je suis vraiment joyeux? Je me réjouis en Jésus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est le test pour nous. Moi, quand je vois quelqu'un qui est triste ou qui souffre, moi aussi je souffre, hein. Ben, moi, je dis que ça ne durera pas longtemps. Un jour, il y a la résurrection. Alors, qu'est-ce que je pense? J'essaye toujours de faire rire pour n'importe quoi, des blagues ou de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le rire fait fuir la souffrance. Le rire fait suivre le fait fuir le découragement. Et le rire et la joie ramènent à Dieu. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur ramène des hommes vers Dieu, pas la brutalité. Le Seigneur est proche, c'est un parti présent venant, il est là. Il faut le laisser venir en nous. Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte, et si tu entends ma voix et que tu m'ouvres la porte, je rentrerai, je mangerai avec toi, tu mangeras avec moi. Donc, Jésus a vraiment ce désir d'être avec chacun de nous. Est-ce qu'on se rend compte de l'immense trésor qui est à notre portée? Il faut entendre sa voix, c'est-à-dire la parole des prophètes et de Jésus dans la Bible. Puis ensuite, il faut ouvrir la porte, ouvrir son cœur. Et puis ensuite, quoi? Manger avec lui, c'est-à-dire partager l'existence. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Combien de fois, des ennuis de maladie, des ennuis avec les enfants, des ennuis avec l'argent, des ennuis avec tout, des avalanches, combien de fois, se mettre à genoux, se mettre tout seul dans un coin, et comptez sur lui. Tout lui abandonner. Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, car je suis doux et humble de cœur. Et non seulement pas pour mes besoins, pour mes craintes, mais je me rappelle un jour, étant infirmier à l'armée, à Liège, il y avait un certain nombre de malades que les infirmières et les brancardiers n'aimaient pas de visiter. Ça sentait très mauvais dans les chambres et ils n'avaient pas un visage sympathique. Ils n'étaient pas sereins, ils étaient acariâtres au possible. Et c'est pas marrant en fait. De mois en mois, quand ça continue comme ça, c'est pas marrant. Donc finalement, ces gens se retrouvent rejetés et seuls. Et moi, je me suis dit, j'ai pas fait la discussion, j'ai pas cherché à embêter mes collègues, mais il m'est arrivé d'être de garde de nuit, tout seul avec ces gens-là. Et ceux-là, ces gens-là, vous appellent régulièrement, parce qu'ils sont mal dans leur conscience, mal dans leur peau. Ils vous appellent, qu'est-ce que vous faites? Vous bandissez, vous explosez, vous les envoyez pète, vous coupez la sonnette, vous les entendez plus. J'y allais et il m'arrivait, il y en avait un qui était vraiment spécial, c'était pas marrant d'y aller. Eh bien, je me mettais à genoux dans le placard, là où il y a les torchons et raclette, pour que personne ne me surprenne. Je priais. Et cet homme s'appelait Théophile. Je n'oublierai jamais son visage. Théophile, ça veut dire ami de Dieu. Mais il était loin de Dieu, en fait. Mais Dieu était proche de lui. Et j'ai pleuré. Il m'est arrivé de pleurer. De dire, Seigneur, donne-moi le courage de l'aimer. Donne-moi le courage de ne pas avoir de répulsion en respirant les mauvaises odeurs qu'il y a là. Donne-moi le courage de le laver, de l'habiller. Et quand je revenais ici en Gaume, je retournais, je lui amenais des timbres, des images. Il était tout heureux. Il n'avait que cette consolation, en attendant que son cancer l'emporte. Un cancer qui durait depuis des années, inexorablement. Eh bien, je m'inquiétais pour lui et je faisais connaître ses besoins à lui, à Dieu. Je faisais connaître ses supplications, ses révoltes. Et je les ai portées auprès de Dieu, avec l'aide de Jésus. Le chrétien prend parfois le fardeau des autres et l'apporte à Dieu. Mais Jésus prend tous les fardeaux, lui. Nous, parfois, on craque. On n'y arrive plus. Alors, regardez au verset 7 ce qui est mis. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, hélas, je le crois, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, il y a une paix qui vient de Dieu, qui garde le cœur et l'intelligence dans Jésus. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est cette expérience-là que je vous souhaite de faire. Et je me réjouis de l'avoir fait de nombreuses fois. Et je vous dis que c'est un trésor inestimable. La vie a une qualité. Une qualité. Ça dépasse tout ce que les psychiatres et les psychanalystes peuvent apprendre. Ou une bonne couite. Ou une bonne mangeaille. Regardons au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation de Jésus, évidemment. Ce qui est vertueux, donc saint, et digne de louange, de la part de Jésus, d'encouragement de Dieu, soit l'objet de vos pensées. Donc, nos pensées doivent travailler vers tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation de Dieu. Et je pense que quand on a ce chemin avec Jésus, le Saint-Esprit nous donne une approbation, nous donne en nous une paix, et c'est cela que vous avez au verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Voilà. Si vous avez compris cela, chers frères et sœurs, c'est toujours difficile, vous avez vu que l'on peut être conduit à aimer l'obéissance. On peut être conduit spirituellement à aimer librement obéir à Jésus et à aimer faire tomber le voile et être en relation avec lui. Donc, je pense que dans la vie chrétienne, il y a une immense grâce que n'offre aucun message comme l'Évangile. Il n'y a pas de message comme ça. Alors, vous vous rappelez que Paul a souvent appelé Mais c'est la même chose pour les autres apôtres, appeler les chrétiens des saints. Ça, c'est bizarre. Puisque Dieu est saint, puisque nous sommes amenés à l'aimer et à aimer sa sainteté et à vouloir en vivre, à la mettre en pratique, à être travaillé par sa sainteté, Paul va jusqu'à appeler les chrétiens des saints. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que nous avons un statut de sainteté acquis pour toujours, en route, en œuvre, par le Saint des Saints, et qui nous amène à une pleine réalisation de cette sainteté. Donc, nous sommes déjà saints en toute puissance de Dieu, pas par nous-mêmes. Prenons l'Épître aux Colossiens, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pas par lui-même, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, aux saints et fidèles frères. Donc, les frères fidèles qui sont dans la foi et qui sont dans le processus de la sanctification, du salut de notre... Si nous vous regardons des autres épîtres, par exemple Philippiens, juste avant Colossiens, Philippiens. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que la prière de Paul, c'est que l'abondance de la grâce coule toujours, tombe toujours sur ces croyants-là. Parce que par nous-mêmes, nous ne sommes pas saints. Et... à tous les saints en Jésus-Christ. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas saints. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Nous n'avons aucune gloire à être appelés saints. Mais nous avons un privilège différent. Le privilège d'être dans le processus du salut. Prenons l'Épître aux Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Toujours en train de demander des cadeaux au ciel pour les croyants. Voilà l'attitude de Paul. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau chez quelqu'un qui a le temps de le faire en déconfinement ou durant sa vieillesse, ou même à d'autres moments, quand il est au chômage, s'il est croyant, de demander que les grâces viennent du ciel sur ceux qui aiment Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de demander les grâces, l'abondance des grâces? On prie pour qu'il y ait du soleil, du bon temps, mais aussi quand il fait trop sec, c'est fini, on va pleurer. Donc on prie aussi pour qu'il y ait de la pluie, on prie pour qu'il y ait une bonne pluie, des bonnes pluies, et que la végétation soit nourrie, alimentée par l'eau de la pluie. Eh bien c'est la même chose, nous prions pour que les chrétiens, la bonne terre qui a reçu la parole de Dieu, soit alimentée par l'eau de la parole. Et il n'est impossible qu'un chrétien puisse évoluer sans l'œuvre de la grâce. Il n'y a pas de grâce à croire dans la magie d'un baptême. La preuve, s'il y avait cette grâce dans la magie d'un baptême, lorsque l'enfant est petit, pourquoi dit-on des messes pour quand quelqu'un est décédé, pour son salut? Pourquoi faisons des messes, même du temps de son vivant, et à son enterrement, pour qu'il ait le repos de l'âme? Pourquoi a-t-on créé les sacrements? Pour lui redonner la vie éternelle, par les sacrements, signe et moyen de salut. S'il a réellement reçu la grâce du salut au baptême, il n'aura pas besoin de tout ça, c'est fini. Eh bien non! Tout cela n'est pas venu de l'Évangile. C'est venu en 365 et 80 ans plus tard. Ce qui est compte, c'est ce qui vient du ciel. Ce qui vient du ciel est le plus important. Et c'est la grâce divine. La grâce divine qui nourrit la foi, qui sanctifie le croyant. Et la grâce divine n'est pas due au baptême. La grâce divine n'est liée à aucun sacrement. Elle est liée au vouloir divin, à la liberté de Dieu. nous ne coincerons jamais Dieu pour lui dire ce qu'il doit faire et comment il doit faire. Et nous ne le coincerons jamais par aucun sacrement. Il sera toujours souverain. Souverain. Et nous aurons toujours la liberté, le privilège de rechercher sa souveraineté, sa majesté, son œuvre parfaite en nous, directement. Je vous lis ceci, 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18. La relation de paternité et de filialité. Voilà où se passe le salut. Et vous voyez, nous sommes le temple du Dieu vivant, c'est-à-dire, c'est nous-mêmes, nos personnes, qui sommes devenus les temples. Ce n'est pas des tas de pierres. Est-il possible d'avoir créé autant d'illusions en bâtissant de grands bâtiments pour laisser croire que Dieu serait plus là que dans mon cœur? Je vais régulièrement à Longwy, et dans une partie de Longwy, il y a une belle église à Gourincourt qui, il y a quelques mois, a été désacralisée. L'évêque est donc venu, il a désacralisé l'église. Quand elle a été bâtie, on l'a sacralisée et les prêtres ont fait la messe, on a mis les hosties dans le tabernacle. L'église a été sacralisée. Quand il n'y a plus de croyants là, un très beau bâtiment, qui maintenant ont fait des dépôts pour des œuvres sociales, on a désacralisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a mis Dieu dans l'église et puis après qu'on l'a fait sortir. Comme si les hommes avaient autorité de dire à Dieu, tu te mets là, tu restes là jusqu'au moment où t'en fais sortir. Comme si les hommes avaient l'autorité de dire à Dieu, tu es là, reste là. Je peux le faire peut-être pour un chien ou un chat. Et encore. Alors, vous voyez à quel point on est arrivé à des langages qui sont faux. Je n'en veux à personne. Mais je voudrais que vous sachiez que la parole de Dieu n'a jamais inventé ces choses-là. Jamais. Notre-Dame de Paris a brûlé. Elle a été créée par un roi qui avait besoin d'un immense prestige sur toutes les autres régions de France. Mais dans cette église, un peu après la Révolution, on a fait un sacre à la déesse Raison. Si vous n'êtes pas au courant, je pourrai un jour vous en parler, mais la déesse Raison, la déesse de la raison, c'est pas Jésus-Christ, a été sacralisée dans cette église qui a brûlé. Est-ce que ce n'est pas Astarté du temps des Cananéens? Est-ce que ce n'est pas Ishtar à Babylone? Est-ce que ce n'est pas Artémis à Éphèse? Diane à Rome? Où va-t-on de telles choses? On est loin de l'évangile de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu, qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Donc c'est une partie où se trouve maintenant l'Albanie et une partie de la Grèce. Tous les saints sont dans toute l'Achaïe, donc une région. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous voyons que chaque fois, il est fait référence à la grâce, à la bénédiction divine. Pour être dans la bénédiction, il faut la trouver là où elle est. Et c'est pour ça que Paul, dans la 1 Corinthiens, chapitre 1, dit ceci. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. En parlant de Jésus-Christ, je vais peut-être commencer avant. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés par Dieu, Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, donc humainement, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. C'est vrai qu'il avait l'église qui a été fondée là par Paul à Corinthe, 550 000 habitants, énormément d'esclaves qui traînaient les bateaux sur l'isthme du Péloponnèse, au-dessus d'une colline, sur des poutres de chêne remplies de suifs, pour éviter tout le parcours des bateaux alentour du Péloponnèse, qui était très périlleux. Il y avait 550 000 habitants, dont un bon paquet d'esclaves, de gens pris dans toutes les nations par Rome, et des fabricants d'amphores, puisqu'on met toute la marchandise dans des amphores à cette époque-là, et dans les bateaux. Les amphores sont rangées dans les bateaux. Et beaucoup de prostituées. Donc cette ville, c'est là-dedans que, elle s'est ancrée aussi, il y avait une ville de chaque côté, c'est là-dedans que Paul a touché des âmes et a amené l'évangile. Naturellement, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Considérez, frères, qu'il n'y a parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles à cause de cela. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc, tout un ramassis de gens sont devenus chrétiens. Et Paul dit, c'est Dieu qui vous a choisi, alors que les autres ne vous auraient pas voulu. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Donc ceux qui se prenaient pour des gens très bien, qui n'étaient ni esclaves ni prostituées, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc l'Église là était le type même de la transformation sous la grâce de Dieu. Alors il ajoute ceci, Paul. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, donc Dieu, par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sainteté, sanctification, il est à l'œuvre en nous pour nous rendre saints, et rédemption, bien sûr à la croix. Nous voyons que tout repose sur Jésus. Et il conclut, afin que celui qui se glorifie seulement dans le Seigneur Jésus. Et au chapitre 2, verset 2, il dit, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà. C'est formidable. C'est formidable. Et toujours, ces personnes qui sont appelées saints, nous le voyons au début de la première aux Corinthiens, ceux qui sont appelés saints par Paul, ce sont des personnes transformées par Christ et en continuelle transformation. Et s'ils font un peu de marche arrière, c'est pas grave. Paul est là par la parole, par les enseignements, les exhortations, pour les ramener sur la marche avant. Vous savez que parfois, donc, même chez les chrétiens de très bonne volonté, nourris de la parole de Dieu, c'est la marche d'Echternach. 5 pas en avant, 3 en arrière, et pif, et paf, et pif, et paf. Et ça dure, et ça dure. Parfois, c'est 15 pas en arrière, hein, même. Ce n'est pas grave, parce que finalement, on va en avant. Ce qui compte, c'est la grâce de Dieu. Il est au bout du chemin, il nous attend, avec amour, il tend ses bras. Et il met dans notre cœur le Saint-Esprit pour qu'on continue à marcher, en avant. Pas pour qu'on se débine, qu'on se couche sur le tarmac et qu'on ne bouge plus. Voilà. Je lis à 1 Corinthiens, chapitre 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc ça nous concerne. À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Invoquer, c'est-à-dire parler avec lui, être en relation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, chers amis, je pense que nous avons un Dieu infiniment bon et miséricordieux qui agit en nous pour nous aider à ôter le voile et qu'il ne soit pas remis. Et qui nous enseigne qu'il est à l'œuvre pour nous conduire malgré nos pesanteurs, nos faiblesses, parfois nos péchés, parfois nos trahisons, il nous conduit quand même vers lui. Au rendez-vous. Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Voilà. Chers amis, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Que le Seigneur vous éclaire dans sa parole. Que la grâce soit la nourriture de vos âmes et de vos vies. Que la parole soit l'instrument de cette grâce. Alléluia.